Paul Marguerite, Volupté. Jean Sylvien, en son entresol qu'ébranlait le fracas des omnibus, debout devant la cheminée, reflétait dans la glace son corps de beau garçon, frisant les pointes de ses moustaches. L'attente du rendez-vous, ici même, allumait ses yeux d'un feu tendre. Sur un guéridon, il y avait une bouteille de muscat et les gâteaux milanais. Derrière la tenture, relevée sur la chambre voisine, un coin du grand lit, préparé comme pour la nuit, montrait la blancheur de ses draps et deux oreillers jumeaux. Jean Sylvien regarda ses mains très blanches, ses ongles roses, et la contemplation l'aborda. Cette rêverie heureuse et impatiente de l'homme qui sourit d'avance à une femme. Des sensations indécises parcouraient son épiderme. Ce plaisir qu'éprouve l'estomac quand on annonce le déjeuner, il le ressentait un peu descendu, et de temps à autre passait sur son échine un petit courant d'air froid qui lui vrillait jusqu'aux moelles. Tout contribuait à la voluptueuse tension de son être, l'attente elle-même, l'imminente apparition de sa maîtresse, Clairette, une femme mariée. Et aussi le malaise instinctif, la peur d'être surpris, qui pimentait leur liaison. Le printemps si tardif, mais brusquement parti en jet de sève et en fusée verte, la languissait aussi d'insomnie, d'une fièvre du sang, cherchant à épancher, car il saignait du nez chaque matin. Enfin, l'influence de la chambre comptait bien aussi. Tout ce qu'elle offrait de familier, d'intime, ses préparatifs de volupté, ce lit, ses friandises, jusqu'à ces énervants lilas blancs qui s'exhalaient à outrance hors d'une conque en cristal. Un coup de sonnette fit vibrer Jean tout à coup de la racine des cheveux à la plante des pieds, en même temps que la brusquerie inattendue du long tintinnabulement prolongeait en lui l'intuition d'un contretemps, la certitude que Clairette n'aurait point sonné de la sorte. Même craignant quelque fâcheux, il n'alla point ouvrir tout de suite, attendit une seconde sonnerie dont le son impérieux et pressé lui fit pressentir une dépêche. C'était bien, en effet, un petit bleu que lui tendait le télégraphiste. Un petit bleu dont le contact fut désagréable à ses doigts énervés, comme la mauvaise nouvelle qu'il contenait, sans doute. Brutalement, il repoussa la porte et, rougissant déjà de mauvaise humeur, il déplia en le froissant le télégramme. Bon, parfait, sacré nom d'un chien. Elle ne pouvait venir qu'à 6 heures. 5 minutes au vol, et encore n'était-ce pas sûr. Sa couturière. Jean haussa les épaules furieux. Elle ne viendrait pas, évidemment, et quand même 5 minutes. Dans sa grande fringale insatisfaite, il perçut le ridicule de sa situation et l'ironie ambiante des choses. Pour un peu, il eût jeté les lilas par la fenêtre, culbuté d'un coup de pied le guéridon et les gâteaux, chaviré le lit à coups de poing. Il étira d'un geste crispé d'homme en croix son corps et ses bras, puis, soufflant dans l'air, dans la bouffée de chaleur qui lui montait à la fleur de peau, il ricana de l'air vexé qu'on prend après une mauvaise plaisanterie. Bah, que c'est bête! Il alla ouvrir sa fenêtre, s'accouda, horripilé par les yeux de blanchisseuse en face qui le guettaient du matin au soir. Ses idées, qui ne pouvaient se détourner de la volupté déçue, flottèrent au fil du souvenir. Clairette ne personnifia plus pour lui, un instant, la jolie Madame un tel, dont elle incarnait le rang et le luxe mondain, mais la femme anonyme, libre et nue, prête encore à l'espèce amoureuse. Telle de ses charmes, rondeur des lignes, odeur profonde des cheveux, clarté des yeux, sourire pâmé, font dire imprécise, revêtant d'une grâce analogue, d'autres maîtresses animées dans le passé. Jean Sylvien fut tout naturellement amené à méditer sur l'essence même de cette volupté, torture et délice de l'homme, instinct fort par lequel la nature impose sa loi de procréation sourde et aveugle. Il pensa au désir étrange qu'il animait en ce moment même, désir matériel et fort, peu spirituel. Car pourquoi mentir? Ce qu'il aimait le mieux en Clairette, c'était elle-même, son corps blanc de beauté stérile, qu'aucune maternité ne déformait. Sa tendresse pour elle était faite, sur toute chose, de culte charnel et vigoureux. Et elle, de son côté, cherchait-elle autre chose que l'ivresse de leurs étreintes, jeunes et saines, l'abandon complet de soi aux joies éphémères du sexe. Donc, en toute franchise, c'était la volupté leur but, leurs moyens et leurs fins. Cette volupté mystérieuse et fuyante qu'on croit atteindre à un point limité du temps et de l'espace et qui se dérobe et recule à l'infini, laissant aux lèvres lasses et au corps fourbu la déception d'un idéal inassouvi. Les femmes, aimées par lui jadis, s'évoquèrent en un relief de vie, avec les attitudes déterminantes qu'elles gardaient dans sa mémoire. Leurs caresses, marquées du sceau particulier que chacune, selon son tempérament, leur imprimait, s'ébauchèrent autour de lui en forme tendre, en gestes blancs. Entre tant de visages abolis de créatures aimées, 3 ans, 6 ans, 6 semaines, 1 nuit, moins encore, 1 quart d'heure, il en surgissait 2 surtout, qui le requéraient. Figure rare, spéciale, unique, par on ne sait quoi de plaintif et de profond, qui faisait songer à ces femmes damnées, des fleurs du mal de Baudelaire. L'une, Anna, une fille rousse, blanche et souple, aux yeux glauques striés d'or, comme les chats, apportait en leur rapport une taciturne âpreté, des lèvres affamées et tristes, un corps à la fois éperdu et dolent. En se livrant tout entière, il semblait qu'elle réservât quelque chose, et en dépit de l'intensité lascive des possessions, elle se reprenait aussitôt après d'un recul brusque, avec des mains grigivantes qui repoussaient la défense de membres raidis. Soudain hostile, rancunier, haineux. Une victime de Vénus, celle-là, une chercheuse qu'une rage froide tordait silencieusement. À voir ses plus perverses imaginations déjouées par l'insuffisance de la réalité. Combien plus étrange cette autre, sa première maîtresse, Madame de C. Presque maternelle à l'automne de la beauté, et simulant des grâces zézayantes de petite fille, d'une corruption déguisée, elle savait provoquer d'un air candidement effronté ses désirs variés en s'insinuant « On dit que c'est bon !» Et il la revoyait penchée sur lui, épiant dans ses yeux avec une curiosité un peu sénile déjà l'évanouissement du plaisir, ce regard que tourne et meurt, quand la prunelle, comme un petit bateau, chavire dans le lac bleu ouvert de l'iris. Et de ruminer cela, subitement, Jean-Sylvien se sentit tout triste. Oui, triste et humilié, en se reconnaissant le jouet d'une loi tyrannique et asservie aux fatalités d'une nature qui se moquait de lui. Des hommes, des hondes de petits garçons, des pudeurs lui revinrent, qui s'alliait à la mélancolie d'être seul en ce moment, un besoin de confidence discrète, de causerie sûre avec un ami. Il ne désira plus tant Clairette, ou bien il supposait la douceur d'un côte à côte chaste, sur les coussins d'une voiture promenée à l'heure, ou encore l'intimité d'un thé servi chez elle à 100 jours, au milieu de visites d'indifférents. Par un de ces revirements fréquents à notre instable organisme, il subissait une détente de son appétit brut. Toutes ces femmes, tant de baisers, d'étreintes et d'hypocrisie de l'amour, si peu d'amour vraiment dans tout cela. Il devenait froid peu à peu, calmé, surprenant en lui un petit dégoût pour la chair. Quand il quitta la fenêtre, sa chambre lui apparut dépouillée de sa signification première. Les friandises du guéridon lui semblèrent superflues, et le lit qui attendait très déplacé. Non, cela ne rimait plus à rien. Comme les gens qui n'ont plus envie de se mettre à table, parce qu'ils ont trop attendu, il se mit à bâiller et alluma une cigarette. Oh, Clairette pouvait venir maintenant, rester 5 minutes ou même ne pas venir du tout. Il s'en consolait sans peine. Et le revirement s'accentuait en lui. La poésie sensuelle, accumulée tout à l'heure sur la jeune femme, fondait comme des fleurs de givre sur la vitre quand le soleil donne. Était-elle si bien que cela, Clairette? Sans constater d'imperfection ni tard, il lui revenait la vulgarité de son esprit et qu'elle avait les larmes faciles. Puis elle montrait une extase niaise. Son admiration du mal se résolvait en moins de lagunes ou d'animaux domestiques. Et ce fut très bête de tout son corps joli de blonde. Il ne vit plus que la tache minuscule, un petit corps tenace qui s'épanouissait sur son doigt de pierre rose. Oh oui, c'était bête. Et cependant, voilà que ce petit point de rien du tout agaçait, exaspérait Jean-Sylvien. Est-ce que les femmes ont le droit d'avoir ces bobos-là? Et dans son injustice, il pensa à d'autres misères, aux fonctions inférieures du corps humain, toutes choses auxquelles il ne pensait guère d'ordinaire et envers lesquelles il ne se savait pas si délicat. La pendule sonna 3 heures. Jean sifflota. Il faisait beau. À quoi bon perdre sa journée? Certainement Clairette ne viendrait pas à 6 heures. Les 5 minutes qu'elle promettait devaient être une frime pour l'apaiser. Pouf ! Fit-il des lèvres. Et il prit son chapeau, et il prit son pardessus, et tant pis pour Clairette, elle n'avait qu'à revenir à l'heure. Il chantonnait à présent, descendant l'escalier, laissant sa sagie, le cœur égayé, à l'idée d'une promenade hygiénique et sage, en plein soleil de mai, au bois.